Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 19 juillet 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'adhésion à part entière de l'Iran à l'OCE, si au BRICS, barre la route à l'unilatéralisme et contrecarre les sanctions. Vous serez ensuite en seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le président iranien Ibrahim Raisi, invité au sommet BRICS en Afrique du Sud. La CPI lance une plateforme permettant aux Palestiniens de porter plainte contre les crimes sionistes. Et puis la France, condamnée par les Reporters sans frontières pour la violation de la liberté de la presse. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a considéré l'adhésion aux BRICS comme la prochaine étape à franchir par le gouvernement Raisi et a déclaré « Le président iranien Ibrahim Raisi a été invité en tant qu'invité spécial pour le sommet BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg ». Concernant la prochaine étape de l'adhésion de l'Iran aux organisations régionales, le chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré « Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, l'Iran a tenté de négocier avec les 5 membres fondateurs des BRICS afin de devenir l'un des premiers pays à devenir observateur puis membre permanent de cette organisation ». Amir Abdollahian a qualifié la politique étrangère du 13e gouvernement d'équilibrée, dynamique et basée sur des questions et des relations étrangères multilatérales et indiqué « Dans le cadre des relations étrangères multilatérales, une grande partie de l'agenda de la politique étrangère du gouvernement Raisi se concentre sur le développement durable des relations économiques et commerciales avec la communauté internationale ». Notant que l'objectif principal de l'adhésion de l'Iran à des organisations telles que Shanghai et les BRICS est de développer le commerce extérieur de l'Iran et d'évoluer vers le multilatéralisme, Amir Abdollahian a ajouté « Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde d'unilatéralisme. Un nouvel ordre international se forme dans le monde. L'une de ses caractéristiques est la concentration et les efforts des pays pour passer de l'unilatéralisme au multilatéralisme », a-t-il conclu. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique ne sont pas et ne seront jamais négociées. Hossein Amir Abdollahian a fait ses commentaires lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov. Il réagissait à une déclaration de la Russie et du Conseil de coopération du Golfe Persique concernant la souveraineté de l'Iran sur 3 îles du Golfe Persique. Amir Abdollahian a déclaré que les relations solides entre les deux pays ne devraient pas être affectées par de telles allégations. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a pour sa part réaffirmé l'attachement de Moscou aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Les deux hauts diplomates ont mené des échanges de vues sur les relations bilatérales et régionales, ainsi que sur la nécessité du respect de l'intégrité territoriale des pays de la région. Cette prise de position de Lavrov intervient une semaine après que la Russie a soutenu un communiqué du Conseil de coopération du Golfe Persique qui semblait contester la souveraineté de l'Iran sur les trois îles de la Grande et la Petite Tombe et Abu Moussa. Le ministre iranien de la Défense, réagissant à la décision américaine d'envoyer des avions de chasse et des moyens navals supplémentaires dans le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman, a déclaré que personne n'est en mesure de menacer le puissant Iran. Le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani a souligné que l'Iran avait atteint un tel stade de force et de puissance que personne ne serait en mesure de le menacer. Le haut général a ajouté que l'Iran a même dépassé son niveau alors que ses rôles et ses poids régionaux et internationaux indiquent manifestement que le pays progresse et se développe. Il a ajouté que l'équipement des forces armées iraniennes par de nouvelles armes avancées figurait également à l'ordre du jour de la République islamique d'Iran. L'Iran a précédemment fustigé la décision provocatrice du Pentagone de renforcer son dispositif militaire dans le Golfe Persique, la qualifiant de provocatrice. La Cour pénale internationale est sur le point de dévoiler une plateforme électronique en ligne pour permettre aux Palestiniens de poursuivre les Israéliens qui commettent des crimes de guerre. Un haut responsable du ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que la plateforme permettra aux gens de soumettre des plaintes multimédia à la CPI. Le régime a intensifié sa répression meurtrière contre les Palestiniens dans les territoires occupés au cours des derniers mois. Enfin, la France condamnée par les Reporters sans frontières pour la violation de la liberté de la presse. L'ONG entame de nouvelles démarches judiciaires en France après les violences policières subies par des journalistes français en marge de la marche pour Adama Traoré à Paris le 8 juillet dernier. Parmi ces journalistes figurent Pierre Tremblay, vidéaste du HuffPost. Soutenu par le HuffPost, il a de son côté déposé plainte jeudi 13 juillet devant l'inspection générale de la police nationale pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'adhésion à part entière de l'Iran à l'OCS et aux BRICS barre la route à l'unilatéralisme et contrecarre les sanctions. Selon le chef de la diplomatie iranienne, l'adhésion complète de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et son entrée potentielle dans les BRICS entravent l'unilatéralisme et les sanctions. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, l'adhésion complète de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et son éventuelle entrée dans les BRICS contrecarrerait les politiques unilatérales et les sanctions. Lors d'une interview accordée mardi 18 juillet à la télévision iranienne, Hossein Amir Abdollahian a affirmé que l'adhésion à part entière de l'Iran à l'OCS fait partie de l'un des acquis de la politique étrangère du gouvernement iranien qui s'emploie à améliorer le bien-être du peuple. À l'issue du 23e sommet virtuel du Conseil des chefs d'État de l'OCS, le 4 juillet, l'Iran est devenu membre à part entière de la plus grande organisation régionale du monde. le drapeau national iranien a été hissé au secrétariat du bloc à Pékin le 5 juillet. L'Iran et l'OCS ont entamé un processus formel d'adhésion en mars 2022. En septembre de la même année, l'Iran a signé un mémorandum pour rejoindre l'OCS. Un mois plus tard, le Parlement iranien a approuvé l'adhésion du pays à l'organisation. En allusion aux conséquences de l'adhésion de l'Iran à l'OCS, le premier diplomate iranien s'est exprimé en ces termes. Nous bénéficierons de toutes les exemptions et facilités disponibles pour les membres de l'OCS sur les plans économiques et commerciaux. Il a toutefois souligné que l'OCS n'est pas seulement une organisation qui se concentre uniquement sur les questions économiques, mais il inclut également la coopération dans les domaines de la sécurité, de la culture, de l'armée, de la lutte contre le terrorisme, de la science et de la technologie. Le chef de la diplomatie iranienne a précisé que le président iranien Ebrahim Raisi a été officiellement invité à participer au 15e sommet de l'OCS en Afrique du Sud, qui se tiendra entre 22 et 24 août 2023. L'adhésion potentielle de l'Iran au bloc des 5 États permettra à l'Iran de bénéficier des grandes capacités de l'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La BRICS regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays à eux seuls représentent environ la moitié de la population mondiale et un cinquième de l'économie mondiale. Le monde aujourd'hui n'est pas un monde d'unilatéralisme. Un nouvel ordre international se forge dans le monde. L'une des caractéristiques de ce nouvel ordre est la concentration et les efforts des pays pour passer de l'unilatéralisme au multilatéralisme, a réitéré le ministre iranien des Affaires étrangères. Aucune limite ne peut entraver le développement de la coopération tous azimuts entre l'Iran et l'Égypte, a-t-il encore déclaré. Amir Abdollahian a souligné que l'Iran et l'Égypte partageaient de nombreuses affinités et a affirmé que les deux pays élaboraient des plans pour améliorer leurs relations au moment opportun. Nous ne connaissons aucune limite pour développer la coopération tous azimuts avec l'Égypte, a réitéré le chef de la diplomatie iranienne. Il a indiqué que les deux parties ont envoyé leurs ambassadeurs dans leurs capitales respectives et ont entamé des pourparlers en matière de sécurité. L'Égypte a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 1980 après avoir accueilli le Shah déchu de l'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, et reconnu le régime d'apartheid israélien. La relance des relations irano-saoudiennes garantit aussi des intérêts mutuels. En allusion à l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Hossein Amir Abdollahian a ajouté que les dirigeants saoudiens étaient arrivés à cette conclusion que les liens entre les deux pays devaient être rétablis sur la base du bon voisinage et du respect mutuel. Le rétablissement des liens entre Téhéran et Riyad garantira les intérêts mutuels et entraînera des résultats positifs pour toute la région, a-t-il ajouté. Il a rejeté l'idée que Téhéran et Riyad n'étaient parvenus qu'à un accord économique. Les deux parties ont convenu de promouvoir leurs relations et les investissements grâce à une coopération économique durable, bien que leurs positions politiques diffèrent sur certains points. Après plusieurs jours de négociations intenses à Pékin, l'Iran et l'Arabie saoudite se sont mis d'accord le 10 mars dernier pour reprendre leurs relations diplomatiques et rouvrir leurs ambassades dans un délai de 2 mois. Dans un communiqué conjoint, après la signature de l'accord, Téhéran et Riyad ont souligné la nécessité de respecter leur souveraineté nationale et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. Ils ont également convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité, signé en avril 2001, et un autre accord conclu en mai 1998 pour stimuler la coopération économique, commerciale, technique, scientifique, culturelle et sportive bilatérale. l'Iran ne franchira jamais les lignes rouges. Dans une autre partie de ses propos, le ministre iranien indiquait que l'Iran poursuivrait le chemin de négociation avec les États-Unis et les pays européens, mais qu'il ne franchirait jamais ses lignes rouges et ses positions de principe. L'Iran fait des efforts considérables pour faire face aux impacts des sanctions unilatérales américaines. Il a réussi à hausser le taux de ses échanges commerciaux avec ses pays voisins à plus de 90 milliards de dollars. Téhéran a également accru ses échanges économiques avec les pays européens, malgré certains défis politiques, a-t-il ajouté. Amir Abdollahian a souligné que l'Iran a maintenu ses liens avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, les trois parties européennes à l'accord sur le nucléaire de 2015, mais que selon ses propres termes, l'Europe ne se limite pas à ces trois pays. Il existe d'autres grands secteurs en Europe avec lesquels nous interagissons sans aucun défi, a-t-il soutenu. Amir Abdollahian a réitéré son appel à un gouvernement inclusif en Afghanistan. Le chef de la diplomatie iranienne a ajouté que tout développement en Afghanistan pourrait avoir des impacts sur la sécurité de l'Iran et de l'Europe. Les deux pays partagent 900 km des frontières communes. Il a mis en garde contre la propagation du terrorisme en Afghanistan. L'Iran ne reconnaît pas les talibans, l'absence du gouvernement afghan inclusif, a-t-il encore réitéré. Le choix de l'Iran ne se limite pas à la Russie et à la Chine, a-t-il déclaré. Amir Abdollahian a également réitéré la ferme détermination de l'Iran à sauvegarder les intérêts nationaux et l'indépendance du pays à la suite d'un communiqué conjoint publié la semaine dernière par le Conseil de coopération du Golfe Persique et la Russie, qui a contesté la souveraineté de l'Iran sur les trois îles du Golfe Persique, d'Abu Moussa, la Grande et la Petite Tombe. L'Iran maintiendra ses relations avec les pays tout en poursuivant sa politique de regard vers l'Asie, mais ne permettra jamais à la Russie ou à la Chine de penser qu'elles sont le seul choix, a-t-il dit. L'Iran interagit avec la Russie et la Chine en fonction de ses propres intérêts et ne les laissera jamais nuire à l'indépendance, à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, a-t-il assuré.
Bonjour à tous. L'actualité du jour que nous commenterons aujourd'hui dans le débat est la venue notamment en Inde, les accords de coopération entre l'Inde et les Émirats arabes unis concernant leur coopération qui ne se fera pas non en dollars mais en roupies et en dirhams. C'est l'actualité que nous avons choisie pour ce débat. Je vous propose tout d'abord donc le reportage qui résumera donc cette coopération, cette venue du représentant diplomatique indien et par la suite nous ferons revenir après donc le reportage nos deux invités comme le veut le format débat. Tout de suite donc le reportage.
L'Inde et les Émirats arabes unis ont signé un accord pour effectuer le commerce bilatéral dans leur propre monnaie nationale, réduisant ainsi la dépendance au dollar américain. L'accord a été signé lors d'une visite à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, par le Premier ministre indien Narendra Modi. Le Premier ministre indien faisait une escale dans la capitale émiratie alors qu'il revenait dans son pays d'une visite à Paris. Les deux pays ont également signé un autre accord qui leur permettra de relier leur système de paiement rapide, à savoir l'interface de paiement unifiée de l'Inde avec la plateforme de paiement instantané des Émirats arabes unis. Le protocole d'accord visant à promouvoir l'utilisation des monnaies locales, le roupier indien et le dirham des Émirats arabes unis pour les transactions transfrontalières a été consigné par le gouvernement de la Reserve Bank of India ainsi que par son homologue à la Banque centrale des Émirats arabes unis. Premier du genre, le protocole d'accord vise à établir un système de règlement en monnaie locale pour promouvoir l'utilisation bilatérale des monnaies nationales des deux pays. Il couvre toutes les transactions du compte courant et les transactions autorisées du compte de capital. Le nouveau développement est intervenu au milieu des efforts de l'Inde pour promouvoir les transactions transfrontalières en devise locale et réduire la dépendance au dollar américain. Cela s'est produit alors que la tendance mondiale à la dédollarisation s'accélère sans relâche au milieu des efforts croissants des différents pays pour abandonner leur dépendance à cette monnaie US pour échanger enfin avec leur propre devise nationale. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à la mi-juin que Washington devrait s'attendre à une baisse progressive de la part du dollar dans la réserve mondiale, à mesure que le mouvement mondial de dédollarisation prend de l'ampleur. Nous devrions nous attendre, au fil du temps, à une augmentation progressive de la part des autres actifs dans les réserves des pays, un désir naturel de se diversifier, a-t-elle déclaré. Yellen a reconnu que le recours aux sanctions a incité certains pays à rechercher des alternatives monétaires. À l'heure actuelle, tous les indicateurs montrent que le montant de dollars américains détenus en réserve par les banques centrales non américaines est tombé à son plus bas niveau. L'instrumentalisation du dollar américain, en plus de l'imposition de sanctions par les États-Unis à des adversaires présumés, a rendu d'autres pays réticents à utiliser le billet vert dans leurs transactions financières.
Nous revoilà donc tout de suite donc la venue de nos deux invités. Je commence tout d'abord par M. Bernard Cornu, géopoliticien. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous sur les plateaux de Presse TV.
Bonjour à vous et à votre collègue, mon collègue M. Corneille.
Alors vous l'avez compris, notre deuxième invité étant M. Jean-Maxime Corneille, analyste politique. Bonjour M. Corneille, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, également plaisir partagé, merci Téhéran.
Alors, selon nos deux experts, alors aujourd'hui nous allons parler de la situation de l'Inde. On a vu beaucoup les membres des BRICS ou de l'OCS faire des voyages diplomatiques ces deux derniers mois, notamment ce dernier mois, si on regarde les quatre dernières semaines. Les membres des BRICS ont beaucoup bougé, ont beaucoup fait de coopération diplomatique ou communiqué avec des pays éventuellement intéressés à une autre monnaie que le dollar. Est-ce que vous confirmez, monsieur Corneille, cette expertise?
Alors, on a en effet de grandes manœuvres qui sont préparatoires au sommet des BRICS qui va avoir lieu en Afrique du Sud. Et nous voyons en effet se multiplier les opérations, justement, d'entremise entre les pays des BRICS qui sont préparatoires, je pense, à ce sommet. Tandis que de l'autre côté, nous avons des déclarations contradictoires de la part de l'Occident, de la part des autorités financières de l'Occident. Nous avons plusieurs déclarations qui vont dans le sens d'une remise en cause de l'Afrique du Sud dans l'idée d'atteindre le maillon faible des BRICS, ce qui est déjà en fait voulu depuis des années. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Mais en effet, nous pouvons constater qu'il y a de grandes manœuvres en cours qui, je pense, sont préparatoires à ce sommet, avec également, nous avons vu des pré-annonces comme l'établissement d'une nouvelle monnaie basée sur l'or. Je pense en effet que ces choses-là sont annonciateurs de nouveaux changements qui, pour moi, pourront avoir lieu aux alentours du 15 août prochain, puisque souvent ce genre de grandes manœuvres se déroulent aux environs du 15 août. Donc voilà, lutte d'influence sous nos yeux, c'est tout à fait fascinant.
Alors, notamment, on vous avait parlé donc cette fameuse monnaie basée sur le l'or qui sera éventuellement prise en compte, notamment par le BRICS, puisque c'est eux qui vont le créer, mais également par l'OCS, puisque beaucoup de membres des BRICS se retrouvent dans l'organisation de coopération de Shanghai. Monsieur Cornu, on entend souvent dans l'actualité européenne sous la table, c'est-à-dire aucune information confirmée concernant certains États, certaines banques nationales qui rapatrient leur or des banques européennes, notamment des banques d'Angleterre. Est-ce qu'il y a une fébrilité économique en France à l'heure actuelle ce fameux 15 août, donc cette nouvelle réunion des BRICS, pourrait être un tsunami pour le système occidental, selon vous?
Ces mouvements d'or, effectivement, ils sont discrets. Beaucoup de pays ont mis leur ordre contre les guerres, les attentats, etc. Mais je crois effectivement, on l'a vu ça dans la presse, que quelques pays ont voulu rapatrier le fonds, rapatrier leur or progressivement dans leur caisse nationale, sécurité. Effectivement, tous ces mouvements autour des monnaies, autour des libellés, des échanges, de plus en plus donc sous une forme bilatérale avec les monnaies des deux pays, affaiblissent un peu la position dominante du dollar. Et ils sont faits pour cela, d'ailleurs, pour affaiblir cette puissance excessive du dollar qui lui permet d'avoir des déficits budgétaires considérables et donc de financer des services de renseignement à hauteur de plusieurs, près d'un demi-milliard de dollars, tous les budgets de la NSA et des autres, de la CIA, et un budget aussi militaire à peu près du même ordre, toujours croissant, et qui permet aux États-Unis, qui bénéficient en plus de l'impunité au niveau international pour leurs crimes d'agression, puisqu'ils sont membres du Conseil de sécurité, le permet en fait de dominer le monde, soit par le renseignement qui leur donne des informations, soit par le militaire en agressant des pays ou en provoquant et aussi des coups d'État dans certains pays. L'Iran l'a effectivement vu en 1953. Donc cette domination excessive de l'Amérique par différents moyens, le dollar, le déficit budgétaire excessif, dans un autre pays, quand il y a un déficit budgétaire, soit en augmenter les impôts, on doit augmenter les impôts et donc la population se révolte, enfin proteste, ou le Parlement, et sinon il y a un affaiblissement de la monnaie. Donc ces mécanismes, pour l'instant, n'affectent pas le dollar et les États-Unis. Donc c'est pour ça que pour améliorer le système mondial, pour l'équilibrer entre toutes les nations, pour être plus juste, il faut que la faiblesse du dollar soit mise en œuvre, enfin, il faut que le dollar soit affaibli. Ça prendra du temps. Parce que c'est effectivement un vieux phénomène et les masses financières sont énormes, les intérêts consolidés établis sont énormes, mais c'est en route. Il y aura peut-être effectivement quelques actions brutales, des soubresauts, ça on ne peut pas le prédire, mais en tout cas, on est en route pour cela.
Merci Monsieur Cornu. Monsieur Corneille, nous avons vu l'Union européenne, après la réunion de l'OTAN, faire une déclaration indiquant que la pauvreté des membres de la population civile de l'Europe est au plus bas, qu'il faut faire attention malgré les dons qui sont donnés par l'OTAN pour la guerre ukrainienne, pour l'effort ukrainien, comme on dit. Est-ce que vous pensez que la situation en fait va être aussi lente que dit Monsieur Cornu, alors que beaucoup d'indicateurs sont au rouge, sont très pessimistes? On parle notamment d'une dévalorisation des valeurs européennes, c'est-à-dire là on est face à une forme d'inflation. On parle que d'ici peu de temps ça va s'inverser, donc une dévaluation du matériel européen, une dévaluation des valeurs européennes. Est-ce que vous pensez que ça ira lentement, vite? Vous confirmez ce que Monsieur Cornu, les propos de Monsieur Cornu, qui sont également les propos de certains analystes.
Alors en effet, plusieurs sujets superposés. Il est nécessaire de garder quelques éléments d'arrière-plan à l'esprit pour comprendre cela. En fait, vous avez non pas uniquement l'Occident, mais vous avez une finance internationaliste qui vampirise l'Occident. En réalité, c'est un accident de l'histoire, mais cela dure depuis 3 siècles. Ça a commencé avec la création de la Banque d'Angleterre, 1694. Ce système, à l'époque, diagnostiqué plus tard par William Cobbett, a été conçu de fait pour créer une chose que William Cobbett résumait, la famine au sein de l'abondance. C'est-à-dire que vous avez au sein des États occidentaux une finance qui agit contre l'Occident, une finance internationaliste qui agit contre le monde entier et notamment contre l'Occident, également contre d'autres pays. Et de fait, c'est cette finance-là qui a toujours été colonialiste ou plutôt néocolonialiste. C'est-à-dire en poussant toujours d'ailleurs les États à faire de la colonisation pour ensuite sortir les États pour récupérer tout ce qui avait été créé dans une dynamique néocolonialiste qui aboutit toujours, y compris dans les pays occidentaux, à monopoliser toutes les sources de revenus possibles, toutes les matières premières stratégiques, tout ce qui peut permettre à des monopolistes financiers de posséder à peu près toutes les sources des richesses au monde. Si vous n'avez pas cet élément d'arrière-plan-là, vous ne pouvez pas réellement comprendre, non pas l'histoire de l'Occident, mais l'histoire du détournement financier récent de l'Occident par cet internationalisme financier agissant contre l'Occident lui-même. Et donc, dans ce contexte-là, nous assistons en fait à l'usure évidente et inévitable du système de Bretton Woods, mais aussi à une bizarre discordance des voix. Par exemple, on l'a vu avec aux États-Unis, l'ancienne voix de la Fed, Madame Yellen, qui est en train d'acter le fait que, d'un côté, il y a un mois, elle disait que ce n'est pas grave, il n'allait pas avoir beaucoup de dédollarisation, et qu'aujourd'hui, elle est en train de nous dire oh, que la dédollarisation, ce n'est pas grave. En réalité, depuis des décennies, depuis en réalité le crime inconstitutionnel que fut la création de la Fed en 1913 par le biais d'une conspiration anticonstitutionnelle aux États-Unis, c'est-à-dire l'application du modèle de la Banque d'Angleterre aux États-Unis, vous avez la même logique de création de la famine au sein de l'abondance et de dépression artificielle créée en Occident, c'est-à-dire de vampirisation de l'économie réelle en Occident, par une finance qui agit depuis l'Occident, mais qui agit contre l'Occident. C'est cette finance-là qu'a subi le monde, et c'est face à cette finance-là, et non pas tant face à l'Occident, que les BRICS sont en train de se structurer. Et
alors, je vous interromps deux secondes pour ajouter le fait que, voilà, c'était quelque chose que je voulais rajouter dans ma question, mais que j'ai oublié de la poser, le fait que voilà, les États-Unis n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre la Chine et les États-Unis. On voit beaucoup de membres importants diplomatiques des États-Unis venir en Chine pour discuter. Finalement, on ne sait pas forcément les conclusions qui ont été faites, puisque des deux côtés, c'est le silence radio. On voit des images, mais on ne sait pas de quoi ils discutent, avec notamment ce fameux 15 août de cette réunion des BRICS. Et on sait très bien que la Chine possède dans son sein, c'est-à-dire dans ses banques, des crédits énormes. C'est-à-dire qu'en matière de crédit, les États-Unis ne survivraient pas si la Chine demanderait un retour sur investissement, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a ces fameux allers-retours entre la Chine et les États-Unis? D'ailleurs, on annonce déjà encore cette semaine une autre venue d'un diplomate américain en Chine.
Sujet très sensible. En effet, nous avons de la nervosité des deux côtés. Et en réalité, à l'époque Trump, nous avions pu voir le début d'une sorte d'entente permettant de faire atterrir les choses en douceur des deux côtés, c'est-à-dire une relocalisation, un certain degré de relocalisation, des délocalisations américaines de nouveau vers les États-Unis, d'une part, avec de l'autre côté l'idée de ne pas non plus créer des déstabilisations trop soudaines de l'économie chinoise, basée aujourd'hui sur l'exportation, mais qui soudain se serait retrouvée avec des chômeurs. En réalité, derrière cela, nous avons l'interrogation d'un système décadent depuis globalement 300 ans, qui a créé une fraude à la qualité comme faisant partie du système et une privatisation de tout, aboutissant globalement à ce qu'il faille toujours produire et produire et produire toujours plus de mauvaise qualité. Nous plaisantons en français en disant que acheter chinois, c'est acheter trois fois, parce que très souvent, ce sont des marchandises de bas niveau qui ont été créées là-bas, mais pas de la faute de la Chine, de la faute d'entrepreneurs indélicats qui ont toujours voulu tuer les coûts et les salaires depuis l'Occident vers la Chine en utilisant des esclaves chinois pour pas cher. Mais sur le long terme, ce modèle consistant à délocaliser toujours plus et à créer toujours plus de matières, de biens et services consommateurs de matières premières, mais dans une optique non pas de durée, mais d'être toujours, de devoir toujours racheter, ce système ne tient pas. Il est anti-écologique et il est contre toute espèce de raison. En fait, nous pouvons avoir à terme une réétatisation de la production et de la finance, mais là, nous sommes en train de voir, je pense, la limite d'un système dans lequel une finance vampire fonctionne contre tous les pays du monde, depuis l'Occident, depuis Wall Street, depuis la City, mais d'une façon qui ne peut pas être pérenne sur le temps long. Et en effet, là où on sent de la nervosité entre les États-Unis et la Chine, d'une façon qui, en réalité, fait qu'ils se tiennent l'un l'autre, mais les États-Unis, quand même, commencent à devenir nerveux.
Merci, Monsieur Corneille, pour ce résumé. Alors, on pourrait en discuter de longues heures, hein, parce qu'on parle d'une finance, comme vous l'avez dit vous-même, qui date d'il y a 300 ans. On pourrait même remonter à Louis XV avec les premiers bordereaux. Donc, c'est une histoire très, très longue, la finance et l'Occident. Monsieur Corneille, vous qui avez toujours été intéressé par la question humaine des choses, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps, surtout aux États-Unis, avec ce fameux film qui est sorti par les mains du réalisateur qu'on connaît, sur le fait des trafics d'enfants. On entend parler aux États-Unis dans les congrès de trafic d'enfants, d'esclavagisme dans les entreprises américaines, d'enfants d'immigrés qui sont sortis des frontières, donc aucune représentation légale pour eux. Est-ce que tout ça ne fait pas peur? Est-ce que ça va arriver en Europe également, cette structure de l'économie qui provoque donc forcément la partie des immigrants, la partie pauvreté, qui en arrive presque à cet esclavagisme qu'a décrit monsieur Corneille concernant les travailleurs et leurs tarifs extrêmement bas?
Je voudrais d'abord rappeler une chose simple qui explique la domination de la finance dans le monde et des énergies fossiles. ces deux domaines, dans ces deux domaines, il n'y a pas de taxe comme vous faites une transaction. Un bateau de gaz, un méthanier ou un bateau de pétrole change plusieurs fois, parfois plusieurs dizaines de fois lors de son voyage. Et dans la finance, quand vous échangez des millions, des milliards, il n'y a pas de taxe. Alors que si vous êtes un individu, vous vendez quelque chose, vous allez payer une taxe. Vous achetez une maison, vous payez en France plus de 7% au gouvernement comme taxe. Donc ces gens-là, surtout avec le développement informatique, le monde de la finance et le monde des énergies fossiles peut optimiser en multipliant les transactions sans que ça lui coûte. Donc forcément, dans ce système-là, de non-taxation des fossiles et de non-taxation de la finance, des transactions financières, ce monde-là gagne, domine le reste de l'économie, et comme l'a dit M. Comin, il a vampirisé, c'est-à-dire qu'il domine par ce simple mécanisme, sans même parler de volonté, disons, complotiste ou de volonté décidée, conjuguée de ce monde-là. Mais les gens qui dominent la finance et les services sont intelligents, donc ils comprennent que ces deux absences de taxation leur donnent un pouvoir immense pour conquérir le reste du monde. Donc c'est ça qu'il faut rappeler très simplement pour expliquer ce qui se passe et sur lequel beaucoup de gens maintenant veulent se venger. Et même le président Macron, lors de sa conférence en direct sur France 24 au deuxième jour du sommet financier pour un pacte financier mondial, sommet qui a eu lieu à Paris au mois de juin, il a dit lui-même qu'il est nécessaire d'avoir une taxation.
Merci, M. Cornu. M. Corneille, vous confirmez, et est-ce que vous confirmez les propos tenus par M. Cornu, et surtout, est-ce que vous voyez dans le système BRICS une sorte d'oxygène qui pourra se mettre en place face à l'économie mondiale ?
Et on va parler de quelque chose de très sensible qui va prendre la suite du propos de Bernard Cornu. Au sujet de ces trafics et de ces trafics humains, en réalité, dans la décadence de l'Occident et dans la décadence que certains réseaux subversifs importent et imposent à l'Occident depuis très longtemps en réalité, il y a un très vieux fanatisme qui remonte à il y a très longtemps, dont l'une des conséquences est en effet les trafics humains, mais sur, notamment la pédocriminalité, et qui d'ailleurs avec la drogue fait partie du système. Mais au sujet du pacte financier mondial, je vais vous rappeler quelque chose qui est très peu connu. Au sujet de la nécessité d'une taxation des transactions financières transnationales, sachez que la France avait refusé ce que l'on appelait en 1999 l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements. Et curieusement après, la France a subi en fin 1999 la pire tempête climatique de son histoire, la seule tempête de l'hémisphère nord de l'histoire météorologique mondiale qui a tourné dans le mauvais sens. La question des armes climatiques pour faire passer certains messages, à l'époque, s'était posée. Elle avait été posée par Mark Filterman, qui était un expert en électronique de défense. Il y a bien des bizarreries derrière l'histoire mondiale, notamment sur cette question, justement, d'une surpuissance de la finance mondiale, internationaliste par définition, c'est-à-dire détruisant les États, parce que les États sont normalement des structures qui protègent les peuples. Il y a bien des choses à dire et assez sensibles sur ce sujet. Et en effet, la France, jusqu'à l'avènement des BRICS, n'avait pas la masse critique pour s'opposer à ces gens-là. Remarquez également que notre président Macron, dont les initiés connaissent les penchants interlopes, a pris parti pour une certaine Myriam Khan, c'est-à-dire une artiste suissesse, juive suisse, qui se livrait à une apologie de la pédocriminalité, mais il n'a pas pris parti, ou il a clairement renoncé à certaines mesures qui auraient été nécessaires suite à la disparition récente d'un petit enfant en France. Or, nous savons qu'en France, il y a 58 000 enfants qui disparaissent par an, dont un tiers ne sont jamais retrouvés. Au moins, quelque chose comme 10 000 ne sont jamais retrouvés.
Est-ce que, donc, alors, juste pour résumer, pour conclure, pour essayer de conclure, parce que c'est encore un sujet vaste, mais est-ce que vous pensez qu'un autre système bancaire pourrait insuffler donc de l'oxygène face à ce système que vous avez décrit, vous et M. Cornu ? En très peu de mots, s'il vous plaît.
Disons, l'alternative au système actuel, c'est effectivement renforcement des pouvoirs concerté des BRICS, du mouvement des non-alignés, de l'organisation de coopération de Shanghai. Mais une partie de l'Occident, et notamment je pense la France, essaye de s'insérer dans ce mouvement pour qu'il ne soit pas trop destructeur. Et donc c'est pour ça que le président Macron a demandé à être invité au sommet des BRICS.
Je vous remercie, Monsieur Cornu.
De la même manière, dans l'énergie, en 1974, le président Giscard d'Estaing a dit qu'il ne faut pas faire une agence internationale d'énergie contre l'OPEP. Il faut discuter avec l'OPEP pour essayer de trouver des solutions dans l'intérêt du monde entier.
Merci Monsieur Cornu, merci Monsieur Jean-Maxime Corneille pour vos deux participations et votre expertise du jour, qui, je rappelle, mentionnait la dédollarisation du système mondial et le fait que de plus en plus de pays souhaitent mettre un système bancaire différent des SWIFT. C'est là que se finit notre débat. Je vous dis au revoir pour un autre débat, une autre fois et un autre sujet. Au revoir.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a adressé lundi un message de félicitations à l'équipe nationale iranienne de volleyball des moins de 21 ans qui a battu l'Italie en finale du championnat du monde FIVB de volleyball masculin U21 dimanche. Chers jeunes, champions de l'équipe iranienne de volleyball, vous avez rendu le peuple iranien heureux grâce à vos bonnes performances au championnat du monde. Je vous remercie tous, a déclaré l'Ayatollah Ali Khamenei. L'équipe nationale iranienne a battu l'Italie dimanche soir en finale du championnat du monde des moins de 21 ans FIVB de volleyball. Elle est donc couronnée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Le président iranien Ebrahim Raisi a publié un message de félicitations dimanche en fin de journée, félicitant l'équipe masculine iranienne de volleyball, ses entraîneurs et toute la nation iranienne pour cette formidable victoire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique ne tolérera jamais aucune ingérence en ce qui concerne son intégrité territoriale suite aux récentes revendications concernant les trois îles du Golfe Persique d'Abu Moussa, la Grande Tombe et la Petite Tombe. S'adressant à une conférence de presse conjointe avec son homologue omanais Saïd Badr al-Boussaïdi à Téhéran lundi 17 juillet, Amir Abdollahian a déclaré que Téhéran ne marchanderait avec aucun pays en ce qui concerne la nécessité du respect de l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le patron de la diplomatie iranienne a fait ces remarques en réaction à une déclaration conjointe publiée la semaine dernière par le Conseil de coopération du Golfe Persique, CCGP, et la Russie, qui contestait la souveraineté de l'Iran sur les trois îles. Dans leur déclaration, les ministres ont déclaré que la question devrait être réglée par des négociations bilatérales ou par la Cour internationale de justice, conformément aux règles du droit international et à la Charte des Nations Unies. Mercredi 12 juillet, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie à Téhéran, Alexis Dedov, et a exprimé l'objection de la République islamique à la déclaration conjointe. Ailleurs, dans ses remarques, Amir Abdollahian a noté que l'Iran et Oman ont suivi la mise en œuvre des accords précédemment signés entre les deux pays. Au cours des 22 derniers mois, le volume des transactions commerciales entre Téhéran et Mascate a plus que doublé, ce qui est un record remarquable, a-t-il déclaré. Pour sa part, le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré que son pays avait toujours suivi une politique visant à promouvoir la paix et la sécurité grâce à une volonté forte. Al-Boussaïdi a ajouté qu'une ferme détermination politique se traduirait par des solutions appropriées à tous les problèmes. Se référant à ses discussions fructueuses à Téhéran sur des questions d'intérêt commun, il a noté que les parties avaient discuté d'un éventuel accord sur un tarif préférentiel. Le ministre omanais des Affaires étrangères est arrivé lundi 17 juillet à Téhéran pour s'entretenir avec de hauts responsables iraniens des derniers développements mutuels, régionaux et internationaux. L'Iran a exhorté les États-Unis à s'abstenir de toute action provocatrice dans la région, en particulier près des frontières du pays, soulignant que Téhéran se réserve le droit de prendre des mesures dissuasives en vertu du droit international. S'exprimant lors d'une conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, lundi 17 juillet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que le rôle du gouvernement américain concernant la question de la sécurité régionale n'a jamais été pacifique et constructif. L'Iran surveille avec sensibilité et précision tout acte illégal et non constructif qui affecterait la sécurité de la région et nous accorderons une attention particulière à tout mouvement provocateur et illégal, en particulier près de nos frontières, a-t-il dit. Kanani a également averti que la République islamique utiliserait au besoin ses droits inaliénables en réponse aux actions américaines. Vendredi, un haut responsable américain de la défense a déclaré que les États-Unis enverraient des avions de combat F-16 dans la région du Golfe Persique ce week-end dans le but de protéger les navires de ce qu'il a prétendu être des saisies iraniennes possibles. Le responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a affirmé que les F-16 offriraient une couverture aérienne aux navires traversant le détroit stratégique de Hormuz et augmenteraient la visibilité de l'armée américaine dans la région. Kanani a par ailleurs souligné que l'Iran n'a jamais considéré comme négociable la question de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur les trois îles de la Grande et la Petite Tombe et d'Abu Moussa qui se trouvent dans le golfe Persique. Perturbé par la tournée fructueuse du président iranien Ebrahim Raisi en Afrique et soucieux de l'influence croissante de l'Iran sur le continent africain, Israël a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, à Nairobi, au Kenya, pour renforcer ses relations avec les autorités kenyanes. Le bureau d'Eli Cohen a affirmé dans un communiqué que sa visite avait pour but de renforcer les liens avec l'Afrique au milieu de la tentative iranienne d'étendre ses activités sur le continent. Les médias israéliens ont rapporté lundi, 17 juillet, que le ministre israélien des Affaires étrangères, qui était en voyage officiel pour assister à une réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, aurait rencontré le dirigeant d'un pays africain, dont le nom n'est pas cité, qui n'a pas de relation diplomatique avec Israël. La rencontre a eu lieu en marge du sommet de l'Union africaine, ont rapporté les médias israéliens. Le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste a affirmé qu'Israël avait engagé des contacts de normalisation avec plusieurs pays africains, dont le Niger, le Mali et la Mauritanie. Eli Cohen a accusé l'Iran de violation de son accord sur le nucléaire civil, affirmant que l'adhésion du Kenya au conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie atomique lui permet d'exercer son influence sur ce qu'il a appelé « supervision internationale de l'Iran ». La semaine dernière, le président iranien s'est rendu au Kenya et en Ouganda et a rencontré le président zimbabwéen, qui a exhorté les pays visés par les sanctions occidentales à s'unir. Les présidents iraniens et zimbabwéens ont signé 12 accords de coopération dans divers domaines. Les deux pays ont également signé des accords de coopération sur l'énergie, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et les télécommunications, ainsi que des projets de recherche, de sciences et de technologie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a décrit la tournée africaine du président Raisi comme un nouveau tournant qui pourrait renforcer les liens économiques et commerciaux de l'Iran avec les nations africaines. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a lancé une attaque simulée contre un avant-poste militaire israélien au nord des territoires palestiniens occupés. Le bureau de presse du Hezbollah a publié dimanche une vidéo de 6 minutes de l'opération, quelques jours après que le Liban a célébré le 17e anniversaire de la guerre de 33 jours d'Israël à l'été 2006. Intitulée « Personne ne peut nous vaincre », La vidéo montre des combattants de la résistance prenant le contrôle de l'avant-poste israélien, érigeant des banderoles du Hezbollah et démolissant l'avant-poste alors que les soldats de l'occupation étaient piégés à l'intérieur. La vidéo a été publiée dans un contexte de tension accrue le long de la frontière entre le Liban et les territoires occupés d'Israël. Mercredi, le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré que la victoire de 2006 a jeté les bases d'une dissuasion qui continue d'exister encore, détruisant ainsi la dissuasion israélienne. Nasrallah a en outre déclaré que la victoire de 2006 avait mis le régime de Tel Aviv sur la pente du déclin et marqué un moment décisif dans l'histoire du Liban, façonnant son destin dans la région pour les années à venir. Le Liban a combattu deux guerres israéliennes en 2000 et 2006. À ces deux occasions, la contribution du Hezbollah sur le champ de bataille s'est avérée un atout indispensable, forçant l'armée israélienne à battre en retraite et brisant le mythe de l'invincibilité d'Israël. La Russie a annoncé dimanche que les avions de la coalition dirigée par les États-Unis avaient violé l'espace aérien syrien à plusieurs reprises au cours des dernières 24 heures. La Russie annonce que les avions de combat de la coalition militaire dirigée par les États-Unis ont violé l'espace aérien de la Syrie dans la région stratégique d'Al-Tanf, par laquelle passent les routes aériennes internationales à plusieurs reprises au cours de la journée. C'est ce qu'a déclaré le contre-amiral Oleg Gorinov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, lors d'un point de presse dimanche. Il a révélé que la coalition américaine avait enfreint les protocoles de déconfliction à 12 reprises au cours des dernières 24 heures. Des avions de combat F-16 de la coalition et un avion espion MC-12W ont violé l'espace aérien syrien dans la région d'Al-Tanf, qui sert de passage crucial pour les routes aériennes internationales, 5 fois par jour, a-t-il fait savoir. Outre les violations de l'espace aérien, deux bombardements ont été enregistrés dans la zone de désescalade d'Idlib en Syrie au cours des dernières 24 heures. Une attaque a eu lieu dans la province d'Idlib, faisant un blessé du côté de l'armée syrienne. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.